Radio Okapi. Journal présenté par Belinda Bosuma.
Toutes les parties au conflit doivent s'éloigner des camps des déplacés. Déclaration du directeur exécutif adjoint chargé des actions humanitaires et des approvisionnements à l'UNICEF, Ted Chaiban, visitait le camp des déplacés de Lushagala au Nord Kivu, où des bombes ont tué plus de 15 personnes, dont des enfants. Après menace de sa destitution, le bureau d'âge de l'Assemblée nationale vient de publier le calendrier réaménagé de l'élection et l'installation du bureau définitif. Ce calendrier fixe pour le 18 mai prochain l'élection des membres du bureau définitif. Et puis, des bombes larguées par le M23 à partir de Massissi au Nord Kivu atterrissent au territoire voisin de Calais au Sud Kivu, constat du président du cadre de concertation de la société civile du Sud Kivu, Delphin Birimbi, alerte sur l'expansion de l'insécurité du Nord vers le Sud Kivu. Il est l'invité de ce journal. Madame, Messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par la visite du sous-secrétaire général et directeur exécutif adjoint chargé des actions humanitaires et des approvisionnements à l'UNICEF. Ted Chaiban s'est rendu au camp des déplacés de Lushagala et Bulengo au Nord Kivu. À l'issue de sa visite hier, il a déclaré, je le cite, « Toutes les parties au conflit doivent s'éloigner des camps des déplacés. » En effet, il y a 5 jours, des bombes larguées à partir des fronts militaires ont fait plus de 15 morts et de nombreux blessés, dont des enfants, dans le site de Lushagala. Ted Chaiban plaide pour le respect des droits des enfants. Ses propos sont recueillis par Chris Moukand-Matante.
Nous voulons que toute partie prenne responsabilité au niveau des droits de l'enfant. Et il est clair que la responsabilité, la première, c'est d'assurer la sécurité des enfants. Donc nous appelons à toutes les parties au conflit de garder le conflit loin des camps des déplacés. Tout le monde sait où est ce camp. En quittant la RDC, je continuerai mon plaidoyer, comme je l'ai fait ici à Goma, pour m'assurer que la violence ne visite pas ses enfants. Deuxièmement, de mettre l'accent sur une solution politique à la crise et continuer à mobiliser des fonds pour répondre aux déplacés, à la population autochtone. Tout enfant congolais a droit à ce qu'on respecte ses droits d'enfant. Il est très important que ce qui est fait ici ne soit pas uniquement la responsabilité des humanitaires, que ce soit une responsabilité qui est partagée entre l'État, qui doit prendre ses responsabilités, investir au niveau des secteurs sociaux, l'humanitaire et le secteur privé et les agences de développement qui ensemble peuvent répondre à ces besoins.
Pendant ce temps, au Sud Kivu, un incendie d'origine inconnue s'est déclaré hier mercredi à la mi-journée au quartier Mulambula dans la commune urbaine de Bagira. Un bâtiment qui abrite le dépôt des vivres du PAM, Programme Alimentaire Mondial, a pris feu avec tout le contenu complètement calciné. La police est intervenue pour stopper les habitants qui tentaient de voler d'autres biens. Les témoins sur place affirment qu'un jeune garçon atteint par une balle perdue est mort sur le champ. Le feu s'est répandu dans les locaux de FONAPAC, le Fonds National des produits agricoles. Difficile pour les responsables du PAM ou ceux de FONAPAC Bukavu de dresser le bilan exact de cet incendie pour le moment. Je vous l'ai dit dans les titres, après menace de sa destitution, le bureau d'âge vient de rendre public le calendrier réaménagé de l'élection et de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, publié tard dans la nuit et parvenu ce matin à Radio Okapi. Ce calendrier fixe pour samedi 18 mai prochain l'élection des membres du bureau définitif. Le processus débute demain vendredi jusqu'au lundi 13 mai de 9h à 17h avec l'opération des dépôts des candidatures. Après examen des dossiers de candidature mardi prochain, les listes des candidats retenus seront affichées le mercredi et la campagne électorale aura lieu jeudi de 9h à minuit. Michel Kifindangoy nous en dit plus.
Conformément aux articles 100, 111, 112 et 114 de la Constitution, ainsi qu'aux articles pertinents du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le bureau d'âge convoque enfin l'électorat pour l'installation du bureau définitif. D'après le bureau provisoire, le calendrier de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale comporte 5 phases. Il va du dépôt des candidatures prévues pour demain vendredi à l'installation du bureau définitif samedi 18 mai prochain. Les candidatures aux différents postes du bureau définitif seront présentés par la majorité, l'opposition et les non-inscrits auprès du président du bureau d'âge. Sous peine d'irrécevabilité, la déclaration de candidature est accompagnée d'une lettre de consentement signée par le parti ou le regroupement politique, sauf pour les non-inscrits. Le dossier de candidature devra aussi être accompagné d'une photo passeport et d'un curriculum vitae détaillé. Toutes les candidatures déposées après lundi prochain à 17h seront déclarées irrécevables, précise la décision du bureau d'âge.
Rappelons que plus de 100 députés nationaux réunis au sein de la dynamique surveillance menaçaient Christophe Mboso et son bureau d'âge de destitution s'ils ne relancent pas le processus de élection et d'installation du bureau définitif. Dans une déclaration mercredi, ces élus condamnent et dénoncent le blocage des activités à l'Assemblée nationale par le bureau provisoire. Ils parlent de violation intentionnelle du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et affirment se réserver le droit d'entreprendre des actions légales et démocratiques contre le bureau provisoire en déant 72 heures. Direction la province du Kwilu. Arrêt des cours depuis une semaine à Dimalumbu, quartier de Bandunduville. En cause, le débordement des eaux de la rivière Kasai. Les salles de classe sont envahies par les habitants avec leurs effets, ce après l'écroulement de leurs maisons. Pour sa part, le directeur de la division provinciale de l'EPST Kwilu 1 indique que des dispositions sont prises pour que les cours reprennent afin de permettre aux élèves de bien finir l'année scolaire. Irène Boma, reportage.
Sur les 4 écoles que compte le quartier d'Imalumbu, 2 ont été affectées par le débordement des eaux de la rivière Kasai et les 2 autres accueillent pour le moment les familles victimes de la dite catastrophe naturelle. À la suite de cette situation, toutes les activités scolaires sont paralysées dans cette entité depuis plus d'une semaine. Le directeur provincial de l'EPST Kwilu 1 rassure que bientôt, les enseignements vont reprendre dans ces établissements scolaires car d'après lui, les partenaires du secteur vont installer des tentes qui vont permettre aux élèves d'étudier en attendant que la situation redevienne normale. Kadjata Niembwe.
Inondation il y a eu, la rivière Kasai a débordé, il y a des eaux partout et la population, au moins nous parlons, est dans des salles de classe. Alors, cela va perturber un peu le déroulement des cours. Nos dispositions, c'est par rapport aux élèves. Il y a des partenaires qui nous ont déjà contactés pour intervenir. Et les partenaires vont donner des tentes pour que, provisoirement, qu'on puisse les installer, que les élèves suivent les cours normalement. Nous voulons que les enfants reprennent les cours au plus vite que possible.
D'après les prophètes Kadjata, le bon déroulement des épreuves hors session de l'examen d'État en cours n'est pas perturbé par ces dégâts, car, a-t-il dit, les quartiers du Malumbu n'organisent pas un centre de passation de ces épreuves. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
Rendons-nous dans la province du Kasai. L'organisation de la société civile pour la paix appelle le gouverneur élu et son vice à faire un bon diagnostic de la province pour mettre en place des projets de développement dans une déclaration faite mercredi à Chikapa. Le coordonnateur de cette structure citoyenne a indiqué qu'en dehors de la question sécuritaire connue de tous, il est important que les nouvelles autorités investissent pour permettre à la ville de Chikapa d'être connectée à d'autres coins de la province. Gilbert Ngoy souligne que la province a également besoin des infrastructures routières pour son décollage. Ses propos sont recueillis par François Kadima.
La connexion des centres de production aux centres de consommation pour ainsi combattre la rareté des denrées alimentaires dans la ville de Chikapa et dans plusieurs coins de la province. Il y a également la route Kangaji qui mérite l'attention particulière du gouverneur parce que cette route est d'une grande importance et devra booster les développements de notre province. Il y a eu dans les gouvernements passés des ministres qui travaillaient dans leur maison et on veut que cette situation puisse cesser dans les 100 premiers jours de la gestion de la province par les nouveaux gouverneurs. L'Assemblée provinciale du Kasai n'a pas cessé jusqu'aujourd'hui à être en location alors que la province a des terrains et qu'il y a même déjà un bâtiment qui est au niveau de finissage et n'attend que l'attention particulière également du gouverneur pour que les élus provinciaux puissent quitter les centres mennonites pour leurs bâtiments propres.
À l'école primaire Lumamba, où a eu lieu cette remise, c'est une joie qui caractérise les élèves. Omar Nassibou est président des élèves.
Avant, nous étudions dans de très mauvaises conditions, qui nuisaient à notre condition d'apprentissage. Notre école était en paille et sans mobilier ni équipement. Aujourd'hui, nous avons une école moderne, équipée au standard. Nous vous rassurons de garder bien notre école pour notre bien et des générations futures.
Les parents n'ont pas aussi caché leur joie. Mboula Lupanjula Jano.
Nous remercions vraiment le président de la République de voir ce bâtiment dont les enfants vont étudier dans de bonnes conditions.
Sentiment partagé également avec le représentant résident du PNUD RDC, Damien Mama.
Je suis particulièrement content avec beaucoup d'émotion parce que quand on vous dit qu'il y a des constructions en cours dans le territoire de Kailo, mais avoir la possibilité de regarder ça de près et de voir le joyau ou le bijou qui est en train d'être livré, ça donne beaucoup de joie.
Ces derniers rassurent que toutes les 103 infrastructures seront remises d'ici quelques mois. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis, le gouvernement provincial du Lualaba menace d'expulser des centaines de personnes habitant près de l'aéroport de Kolwezi. C'est ce qu'ont fait savoir à Radio Kapi les acteurs de la société civile et défenseurs des droits de l'homme dans cette province. Selon Maître Gauthier Kayombo de l'ONG Justicia Asbel dans le Lualaba, le gouvernement provincial a un projet de construction d'une nouvelle cité qu'on appellerait Fachi City dans cet espace. Il sollicite donc une solution négociée entre les deux parties grâce à Mzali. Qui nous en parle.
D'après Maître Gauthier Kayombo, il s'agit de plus ou moins 130 ménages répartis sur deux blocs, à savoir Kamikungwa et Saint-Joseph, qui sont concernés. Ainsi, il préconise le dialogue entre cette population et l'autorité provinciale.
S'il y a un projet qui entrerait dans l'intérêt général de cette population-là, autant que cette population le sache, et consulter cette population serait une bonne chose. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est vraiment faire par défi. Ils veulent enfermer cette population pour que finalement, parce qu'il y a des militaires, la population ne peut pas faire face à un militaire qui a la gâchette facile. Et puis c'est quel type de militaire? Ce sont les gardes républicains. Nous craignons que d'ici là, il y ait mort d'homme. Du moment qu'il y en a pas encore, je crois que le gouvernement a tout intérêt à trouver une solution à l'amiable avec cette population. Une population qui est calme, une population qui n'est pas agressive.
En réaction, le ministre provincial des Affaires foncières du Lualaba réfute ces allégations. Selon Jean-Pierre Mupatai, il s'agit plutôt des gens qui se sont improvisés dans la concession de la RVA. Cette dernière réclame son espace. C'est ainsi que ces ménages sont obligés de plier bagages, précise le ministre. Des retours de Kolwezi, grâce à Mzati Masanzi, Radio Kapi.
Dans l'actualité aussi, vous l'avez certainement remarqué, il fait extrêmement chaud à Kinshasa et le ministère de l'Environnement et du Développement Rural émet une série de recommandations à l'endroit de la population touchée par les pics de chaleur. Dans un communiqué officiel publié le 8 mai, le ministère recommande de boire régulièrement et suffisamment de l'eau pour éviter la déshydratation, se réserver la prise d'alcool et d'autres boissons gazeuses. Parmi les mesures à long terme, il est recommandé en plus à la communauté de planter chaque mois au moins un arbre. D'autres détails avec vous, Billy Van Lutumba.
La plantation d'arbres soutient le ministère de l'Environnement contribue non seulement à atténuer les effets du changement climatique en absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Il favorise également la restauration de la biodiversité et améliore la qualité de l'air que nous respirons. Ce comportement soutient le ministère permet d'assurer un avenir durable pour les générations futures. Parmi les autres mesures préventives, le communiqué du ministère de l'Environnement conseille de rester le plus possible à l'ombre ou dans un endroit frais. Il est demandé à la population de se protéger également du soleil en portant un chapeau, des vêtements légers et des couleurs claires ainsi que des lunettes de soleil si possible. Par rapport aux habitudes quotidiennes, il est demandé à délimiter les activités à l'extérieur pendant le pic de la chaleur, généralement entre 12h et 15h. Dans son communiqué, le ministère insiste sur la protection des personnes vulnérables, en l'occurrence les femmes enceintes, les personnes âgées, les enfants, les personnes souffrant de maladies chroniques, les personnes vivant avec un handicap, les albinos et toute personne exposée à des risques accrus des complications liées à la chaleur.
Actualité internationale.
Nous sommes au Niger. Le pays est en proie à une épidémie de méningite et tente de immuniser la population contre la pathologie. La vaccination lancée en urgence par l'OMS a démarré à Niamey, point névralgique de l'épidémie. Le Niger a enregistré fin avril plus de 2000 cas pour 143 décès contre 1389 pour 72 décès à la même période l'année dernière, selon l'Organisation mondiale de la santé, soit une augmentation de 50%.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Delphin Birimbi, président du cadre de concertation de la société civile du Sud-Kivu. Il alerte sur l'expansion de l'insécurité de la province du Nord-Kivu vers le Sud-Kivu par le M23. D'après lui, ces rebelles larguent des bombes à partir du territoire de Masisi au Nord-Kivu et ces bombes atterrissent dans les agglomérations du territoire voisin de Calais au Sud-Kivu. Delphin Birimbi en parle avec Jean Kassami.
Delphin Birimbi, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous venez fraîchement de Calais?
Oui, je viens du territoire. Et...
quelle est la situation sécuritaire à Calais?
La situation est totalement grave et ça nécessite une implication directe du gouvernement central puisqu'il y a déjà 7 morts et 6 blessés graves au niveau de Kisongati, dans le village de Murambi, groupement de Bouzi, chefferie de Boavu, territoire de Calais, dans la province du Sud-Kivu, à partir des bombes qui sont largués par le rebelle du M23 à partir de Rwangara. Rwangara, c'est dans le territoire de Masisi, en province du Nord Kivu. Ils ont largué des bombes, 3 bombes, mardi 7 mai 2024. C'est une situation qui est devenue monnaie courante dans le territoire de Calais.
Ces bombes larguées à partir du Nord Kivu sur le territoire de Calais, est-ce que ces bombes sont tombées sur des maisons d'habitation ou sur une foule rassemblée quelque part?
C'est dans plusieurs parties du territoire où les gens sont en train de fuir. Les gens qui étaient à Numbi, ils ont fui la fois passée vers Kalungu, Minova, Kisongati, Nyabibwe, Nyamasasa, Change et Nyamugari. Et maintenant, au niveau de Kisongati, c'est d'abord dans le village de Murambi, il y a une grande population qui est là, la population locale. À cela s'est ajouté aussi les mouvements réguliers des populations qui sont en train de fuir. Et donc, les bombes sont tombés sur des maisons des habitants et dans des foules de populations locales de l'entité.
C'est-à-dire que les M23 n'ont pas encore foulé le sol du Sud-Kivu, mais ils opèrent à partir des localités voisines du Nord-Kivu.
Exactement, je confirme ici que les éléments du M23 ne sont pas dans le territoire de Calais, mais ils sont à limite avec le territoire de Calais. Donc, ils sont du côté Nord-Kivu, précisément dans le territoire de Masisi, chefferie de Baoundé, dans nos limites avec Calais. Donc, du côté Calais, il y a le groupement de Bouzi et il y a le groupement de Ziralo. Maintenant, du côté Nord Kivu, ils opèrent dans le groupement de Mufumishanga et dans le groupement de Ufamandu, à limite avec les deux groupements de Calais que je venais de citer. Et maintenant, ils larguent des bombes à tout moment et ce sont ces bombes-là qui sont en train de tuer les gens. C'est à travers ces bombes-là que les gens sont en train de fuir. Si on prend la question avec légèreté, les rebelles vont risquer même d'attaquer immédiatement le territoire de Calais et ça sera comme le Nord Kivu. C'est pourquoi nous interpellons encore l'attention du gouvernement central à prendre cette question avec sérieuxité pour démanteler le phénomène M23.
À Bunyakiri, nous avons appris aussi au début de la semaine que la situation était tendue. C'était quoi là-bas?
Bon, à Bunyakiri, jusqu'à maintenant, la population vit toujours dans des psychoses généralisées sur cet axe-là. Donc, il y a eu des incompréhensions entre les éléments de Raia Mutomboki Amakombo et son collègue du groupe armé Raia Mutomboki Mungoro. Ils se sont affrontés et donc sur la barrière illégale érigée à Kichanga, les fils du général autoproclamé Amakombo seraient interceptés sur la barrière. Il est en train de venir de Kambali. Et comme la barrière là, c'est une barrière tracassante où les gens sont contrés de payer 500 francs, 1000 francs, il a aussi été taxé. Étant le fils du seigneur de guerre, il a refusé de ne pas payer. C'est comme cela qu'il serait torturé par les éléments du groupe armé Raia Mutomboki Mungoro. Son père, étant informé de la situation, il est arrivé sur le terrain accompagné de ses hommes et c'est là qu'il a commencé à tirer des balles. Et sur place, un élément de Mungoro était mort. Alors Mungoro, avec aussi ses collègues du groupe armé Mwenyasili, aussi Bibilo, ils se sont coalisés contre le groupe de M. Hamakom. Et maintenant, la population n'est pas encore vraiment... Du côté Mukwija, ça a été la même chose. Des éléments Maïmaï, Wazalendo, qui venaient du groupement de Mbinga Sid, ils voulaient passer à Mukwija pour Minova. Ils ont tiré plusieurs coups de balle. Vous comprenez que c'est tout Calais qui est maintenant en insécurité grandissante. Et si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, donc Calais va risquer de tomber comme Masisi, comme Rutshuru.
Telfem Birimbi, merci.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
Le président du cadre de concertation de la Société civile du Sud Kivu répondait aux questions de Jean Kassami. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.